l'association. Et puis, donc, est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est nouveau la méditation? D'accord. Donc, je réexpliquerai un peu ce que l'on fait en méditation. Ensuite, on développe un point du Dharma, c'est-à-dire un point d'enseignement. Et puis ensuite, on termine par questions-réponses et à la mesure, c'est fini. Quand le Bouddha, le Dharma, la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc chacun, pendant quelques instants, commence par placer le dos, le corps, pardon, en méditation, avec une colonne vertébrale très droite. Pour cela, vous pensez qu'avec la tête, vous poussez le plafond. Mais même si on médite depuis plusieurs années, on essaie de toujours vérifier que notre corps est dans une bonne posture. Vous pouvez méditer sur une chaise à condition de ne pas vous adosser et de garder la colonne vertébrale droite, rejeter légèrement les épaules en arrière et pensez qu'avec la tête vous poussez le plafond. Ensuite, on médite les yeux ouverts à l'oblique dans la méditation du calme mental qu'on appelle en tibétain shiné ou shamatha en sanskrit. Le regard est posé à l'oblique et aucune tension dans le regard. Pour placer l'esprit, c'est-à-dire la conscience, ce qui est conscient, on garde l'esprit détendu, vaste, tranquille, c'est-à-dire qu'on met de côté un petit peu tout ce que nous avons fait aujourd'hui, tout ce que nous allons faire tout à l'heure et demain, et on essaie de se placer dans l'instant présent. Sans chercher à modifier cet instant présent, on le rencontre tel qu'il est. Donc on ne fait pas de tri, on accepte que dans cette détente, tous les phénomènes peuvent apparaître à l'esprit, peuvent s'élever, aussi bien les pensées, les sensations, les perceptions que les formations mentales. Habituellement, lorsque notre esprit, lorsqu'il y a une pensée par exemple qui s'élève, notre esprit ou notre conscience se porte sur cette pensée, se fixe sur elle, se laisse entraîner par cette pensée, et nous devenons un avec cette pensée. Et on a tendance à agir de même lorsqu'il y a une sensation, une perception, lorsqu'on entend quelque chose par exemple, ou lorsqu'il y a un état mental qui s'installe. Méditer veut dire ne pas modifier les phénomènes. S'il y a des pensées, on laisse les pensées s'élever. Mais on développe une attitude qui fait qu'on ne va pas s'identifier à ces mouvements, à ces pensées, à ces phénomènes. Et pour être sûr que l'on ne s'identifie pas à ces phénomènes, alors nous plaçons notre attention, notre esprit, sur un support de méditation. Donc ceux qui ont l'habitude de méditer, vous placez votre esprit sur le support sur lequel votre esprit a envie de se placer ce soir. Pour les personnes qui débutent, vous le placez sur la respiration. Et sans modifier le rythme respiratoire, simplement vous êtes conscient que vous inspirez, conscient que vous expirez. Vous inspirez et vous expirez. Et tout en étant conscient de ce support, vous restez conscient des phénomènes, des pensées, des sensations, des perceptions, mais vous ne perdez pas conscience du support. Et si l'esprit est distrait, que vous oubliez le support, quand vous prenez conscience que vous n'êtes plus conscient du support, eh bien, vous le replacez tranquillement sur le support. Tout doit se faire avec détente. Aucune tension, aucune crispation. Au sujet de la méditation, je rappelle que dans le Dharma, c'est-à-dire le bouddhisme, notre bonheur, notre paix intérieure, notre bien-être ne dépend pas fondamentalement des situations, des circonstances que l'on rencontre, des phénomènes, de façon plus générale. Évidemment que si l'on peut modifier des circonstances et des situations, c'est très bien, c'est bénéfique pour soi, c'est bénéfique pour autrui. Mais il y a des tas de situations qu'on ne pourra jamais modifier et auquel il faudra bien faire face. Donc, le but de la méditation, c'est de transformer notre façon de réagir par rapport aux situations que l'on rencontre. Ça, c'est fondamental dans la pratique du bouddhisme. Et ça, je le rappelle, parce qu'alors, il y a des personnes qui pratiquent le dharma depuis des années et des années, et qui pensent toujours que, par leur pratique, la maladie va disparaître, par exemple. Les circonstances désagréables ou pénibles, eh bien, vont disparaître. Non. Il y aura toujours la maladie, il y aura toujours, comme disent les textes, la souffrance d'être obligé de fréquenter des personnes qui nous sont désagréables, la souffrance d'être séparé des personnes que l'on aime, etc. Et ça, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, à tour de rôle, on sera confronté à ces situations-là. Donc la clé de la libération, la clé de notre bonheur intérieur, ne vient pas de la disparition de ces situations, mais comment nous réagissons par rapport à ces situations-là. Et c'est pourquoi la méditation est si importante dans le bouddhisme, parce que la méditation nous permet de travailler directement sur notre esprit et sur notre façon ordinaire d'appréhender les choses qui fait que aujourd'hui, eh bien, nous abordons ces situations et nous endurons ce que, à l'état ordinaire, ces situations font naître comme expérience douloureuse dans notre esprit. Et il faut bien comprendre ça, et même si on pratique le dharma depuis longtemps, il faut expérimenter que la clé de notre paix intérieure se trouve dans notre esprit. Et par cet entraînement de la méditation, petit à petit, hein, il n'y aura pas de miracle, ça ne va pas se produire comme ça du jour au lendemain, mais par notre entraînement, eh bien, on va se rendre compte qu'on ne réagit plus de la même façon que lorsque on n'entraînait pas son esprit. Rinpoche Rinpoche redit souvent, méditer, c'est apprendre à réagir autrement face aux situations. Et quand on comprend ça, on comprend que chez un être comme le Dalai Lama ou comme n'importe quel autre grand méditant, leur esprit fonctionne comme le nôtre. Ils vivent exactement ce que nous vivons. Ils rencontrent toutes les situations pénibles que nous pouvons rencontrer. Voilà. Mais ce qui est différent par rapport à nous, c'est leur façon de réagir par rapport à ces situations. Et leur façon de réagir, eh bien, n'est pas due à une espèce de baguette magique, due à un miracle. C'est parce qu'ils ont médité, c'est-à-dire entraîné leur esprit. Eh bien, depuis des années. Donc, méditer, c'est synonyme d'entraîner son esprit. Et l'entraînement, c'est un terme qui est important, parce que si nous n'avons pas de constance, si nous n'avons pas de régularité dans notre entraînement de l'esprit, l'esprit ne se modifiera pas. Même si on a envie qu'il se modifie, l'intention est importante, c'est le moteur qui va nous mettre des fesses sur le coussin, je veux dire, mais c'est l'entraînement qui va modifier ce comportement, cette façon de réagir de notre esprit. Et là, pour les personnes nouvelles, si vraiment vous voulez méditer, le secret de la méditation, c'est de méditer tous les jours. Et pas besoin de méditer une heure tous les jours. Commencez par méditer 15-20 minutes, pas plus. Mais essayez de trouver 15-20 minutes tous les jours. Et vous verrez que très vite, au bout de quelques semaines, quelques mois, eh bien, vous sentirez une différence, une façon de un peu différente dans votre façon de réagir par rapport à l'autre qui vous agace aujourd'hui. Ben, il vous agacera un peu moins. C'est pas qu'il sera plus sympa avec vous, c'est que vous serez moins agacé par son attitude. Tout simplement. Il y a des petites choses comme ça qu'on peut sentir. Mais si vous méditez une heure, de temps en temps, une fois par semaine, parce que vous en avez envie ou parce que vous avez le temps, eh bien ça ne modifiera pas vraiment l'esprit. Et alors, l'esprit ne se modifiant pas au fil des mois, eh bien on se décourage et on se dit, bah oui, la méditation, c'est pas fait pour moi. Expérimenter. Alors ça, c'est un deuxième terme qui est très important dans le dharma, c'est la notion d'expérience. Nous devons faire nos propres expériences. Nous n'avons pas à croire ce que le Bouddha a dit, ce que le Dalai Lama nous dit aujourd'hui. Ça peut nous inspirer, mais nous devons expérimenter de façon à ce que notre pratique authentifie les enseignements et pas l'inverse. Et pour les personnes qui méditent de temps en temps chiné sans support, plusieurs éléments. Or, pour cette méditation de chiné sans support, ça peut être un peu déconcertant au début parce qu'on ne sait plus quoi faire de notre esprit. On ne sait plus où le poser. Or, il n'y a pas de support, donc on ne le pose plus. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on dit qu'on demeure dans l'aspect connaissance de l'esprit. L'aspect connaissance de l'esprit, c'est ce qui reconnaît, ce qui connaît les phénomènes, la présence des phénomènes. Ajahn Chah, par exemple, disait que l'esprit, c'est ce qui sait. Il reprenait là un terme, une expression du Bouddha lui-même. Dans les sutras, on voit cette expression. Ce qui sait. D'autres termes, ce qui connaît, ce qui reconnaît. C'est l'aspect connaissance de l'esprit. Quand vous êtes en méditation et qu'il y a une pensée qui s'élève, vous savez qu'il y a une pensée. Mais la connaissance ne va pas dans l'analyse de cette pensée. C'est tel type de pensée, pourquoi elle s'élève, etc. Mais simplement, il y a le fait d'être conscient qu'il y a cette pensée, voilà, qui traverse l'esprit. S'il y a une voiture qui passe, il y a conscience qu'il y a une voiture qui passe. Et que ce bruit, c'est le bruit d'une voiture, c'est pas le bruit d'un avion, c'est le bruit d'une voiture. Voilà. Mais on ne devient pas un avec le bruit, on ne devient pas un avec la pensée. On est simplement dans un état d'observation, mais consciente. Consciente, qui connaît la présence de ces phénomènes. Voilà. Alors, pour méditer de cette façon-là, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion d'espace. Il faut absolument donner de l'espace à son esprit. Cette notion d'espace ou de détente de l'esprit, cela veut dire que dès le départ, on accepte que tous les phénomènes peuvent s'élever dans l'esprit. S'ils sont agréables, c'est très bien. S'ils sont désagréables, c'est très bien. Quels qu'ils soient, on admet que tout peut s'élever. Et on admet que tout peut s'élever parce qu'il y a la compréhension que ces phénomènes sont dus à des causes et des conditions, donc ils sont dépendants, et que ça nous plaise ou non, qu'on les veuille ou pas, s'il y a des facteurs qui leur permettent de s'élever, ils s'élèveront, quoi. Que ça nous soit agréable ou désagréable. Donc, être détendu veut dire, c'est ce que veut dire Rinpoche Hipoche quand il dit « to be relaxed », être détendu veut dire totalement ouvert, vaste, totalement ouvert. Dans cet espace, bah oui, il y a des tas de choses qui peuvent s'élever. Alors, ce qu'il faut expérimenter dans cette méditation, c'est que la présence des phénomènes, par eux-mêmes, n'affecte pas la tranquillité de l'esprit. Ce qui affecte la tranquillité de l'esprit, c'est lorsque l'esprit devient un, ou se laisse entraîner par ces phénomènes. Ça, il faut vraiment expérimenter ça. Et cette notion d'espace est importante, alors surtout dans notre lignée, le Mahamudra, dans le Dzogchen, on parle beaucoup de notion d'espace aussi. C'était le premier des points sur le cahier des charges donné par Rinpoche Hipoche quand on cherchait un lieu à la campagne et qu'on a trouvé Luce. C'était l'espace. De l'espace. Créer un centre au sein d'une clairière où il est entouré de forêt, ça ne plaît pas du tout, en gros, aux Tibétains. Les Tibétains, il leur faut un endroit perché, avec vraiment de l'espace devant. Alors, ceux qui ne sont pas venus à Luce, venez à Luce, il y a de l'espace. Ça, c'est sûr, il y a des allées devant. On ne voit même pas une maison. Quand on médite chez soi, ou par exemple dans une pièce comme celle-ci, l'espace est limité. Eh bien, il faut créer, au départ, une image mentale qui va suggérer à notre esprit cette notion d'espace. Rappelez-vous, par exemple, un paysage que vous avez fréquenté pendant les vacances où vous avez senti cette notion d'espace, de bien-être. Et avant de méditer, représentez-vous mentalement cette image d'espace. Et ça, c'est important. Surtout si on a une journée de travail, si on a une famille, si on est bien stressé, si on n'a pas le temps de manger avant de venir, etc., et qu'on est un peu comme ça, eh bien, avant de méditer, il faut sortir la tête du guidon et se dire... détente, espace. Et quand l'esprit, au bout de quelques minutes, ressent, vit cette notion à nouveau de détente et d'espace, alors là, on peut établir l'aspect connaissance dans cet espace. Qu'est-ce qui se passe dans cet espace? Qu'est-ce qui s'élève? Il y a ça, il y a ça, mais tout va bien, tout va bien. Il y a une sensation, mais tout va bien. Je peux faire l'expérience que la sensation, même si elle est désagréable, j'en ai conscience, mais je n'ai pas besoin forcément de bouger parce que cette sensation est désagréable. Et quand on fait cette expérience-là, elle continue d'être désagréable. Mais notre esprit va la vivre autrement. Il va complètement se détendre par rapport à cette sensation, etc. Donc ça, c'est très important. Et l'élément le plus important, c'est l'aspect connaissance, l'aspect conscience. C'est-à-dire que chiner sans support, ce n'est pas une méditation où il y a une torpeur subtile qui va s'installer, voire ensuite une torpeur grossière, on va être là comme ça pendant méditer. Vous savez qu'on peut, on peut rêver les yeux ouverts. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Hein. C'est arrivé à tout le monde, on médite les yeux grands ouverts, et on est en train de rêver, quoi. Voilà. Il y a des images qui s'élèvent, mais c'est aussi, presque aussi réel que les apparences oniriques, quoi. Hein. Donc ça veut dire que l'esprit, il se pacifie, il perd sa clarté, sa luminosité, son aspect connaissance, et il faut intervenir à ce moment-là. Donc il faut que l'esprit soit vif, lucide, presque en alerte, mais en étant complètement détendu, très relax. Alors si vous avez du mal au début, vous méditez 3-4 minutes, vous arrêtez de méditer, et puis quand l'esprit est reposé au bout de 2 minutes par exemple, vous reprenez cet exercice pendant 3-4 minutes et vous alternez. Et il est préférable de faire comme ça que de se dire il faut que je fasse 20 minutes sans support, mais qu'au bout de 5 minutes vous êtes là comme ça. Parce que chiner sans support, quand l'esprit se pacifie, eh bien c'est très difficile dans le cas d'une torpeur subtile de repérer cette opacité subtile. Parce que dans chiner sans support, alors qu'il y a une opacité subtile, l'esprit est dans un état de total bien-être. Détendu, complètement relax. Il n'y a plus de soucis. Mais on perd cet aspect clarté, cet aspect connaissance, vif. Ça, il faut bien veiller à cela. Alors pourquoi on parle de chiner sans support? Parce que nous sommes en janvier, et comme en janvier, on modifie les méditations quotidiennes. Donc vous avez de quoi noter. Dans les méditations quotidiennes, il y a 10 minutes de réflexion et puis 20 minutes de méditation. Pour les personnes qui viennent pour la première fois ce soir, méditez tous les jours comme on a dit tout à l'heure, parce que c'est prématuré déjà d'aller dans d'autres formes de méditation. Donc vraiment vous placez l'esprit sur un support. Alors ça peut être la respiration, mais ça peut être un objet que vous placez devant vous. Ça peut être une visualisation, c'est-à-dire vous pensez à une image mentale que vous pouvez vous créer, et puis vous portez votre attention là-dessus, ou simplement la respiration. Mais pour les personnes qui ont commencé là en septembre, les réflexions quotidiennes, les 10 minutes de réflexion, elles ne changent pas. Donc le lundi, je crois que c'est la réflexion sur la nature du samsara. Voilà. Alors, ensuite, au point de vue méditation, les 20 minutes, vous méditez en prenant la respiration comme support. Donc, vous laissez tomber l'image mentale du Bouddha en face de vous. Vous prenez comme support, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Voilà. Le mardi, c'est la réflexion sur l'esprit d'éveil, la motivation altruiste. Je le rappelle, dans la motivation altruiste, mais ça, on va en parler là tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais en tant que bouddhiste pour qu'il y ait un peu plus de bonheur, un peu moins de souffrance? Là, c'est l'esprit d'éveil. Et la pratique, vous ne la changez pas, c'est la pratique de Tonglen, c'est-à-dire l'échange de soi avec autrui, ça vous connaissez. Le mercredi, la réflexion, c'est la loi de causalité, je crois. Donc, ça, vous ne changez pas. Et la méditation, c'est chiner sans support. Donc, les 20 minutes, chiner sans support. Donc, alors, la posture, c'est important pour chiner sans support. C'est vraiment le regard à l'horizontale. Et alors, quand vous regardez un Rinpoche qui médite, soit l'actongue, la vision pénétrante, soit chiner sans support, il n'a jamais le regard fixe, il n'est jamais comme ça. Pendant 20 minutes. Mais il a toujours le regard qui légèrement bouge. Extrêmement souple. Aucune tension dans le regard. Donc ne fixez pas un point, mais promenez un petit peu votre regard sur autour d'un point, si vous voulez. De façon à garder l'esprit vraiment détendu. Ça, c'est très important. Le jeudi, c'est comme le mardi, l'esprit d'éveil et puis méditation de Tonglen. Le vendredi, c'est la réflexion sur la précieuse existence humaine, c'est ça? Et la méditation, c'est, vous allez méditer le vendredi sur conscience sensorielle en tant que support. C'est-à-dire, là, comme vous avez déjà fait pendant 3 mois, lorsque vous avez un son que vous ressentez, que vous percevez, votre esprit se porte sur ce son et prend ce son comme support le temps de la durée de ce son. Lorsque ce son s'arrête, par exemple la voiture vient de passer, maintenant il n'y a plus ce bruit de voiture, eh bien, vous portez votre attention sur un autre sens. Ça peut être par exemple le parfum de l'encens ou même la conscience mentale à la limite. Hein? Et ça, c'est important, cette méditation, et il faut la maintenir de temps en temps parce que c'est ce qui permet vraiment de passer en méditation en action. La méditation assise en méditation en action. Vous avez trop de personnes qui pensent encore aujourd'hui qu'il y a, entre guillemets, un monde de sacré quand on est dans un temple, quand on est assis sur coussin, etc., ou quand on est devant son hôtel, et puis un monde entre guillemets profane quand on est dans notre activité. Or, il n'y a pas de frontière entre ces deux mondes. Être dans un temple, être sur son coussin, c'est vraiment se donner toutes les possibilités les plus favorables pour entraîner son esprit. Mais notre méditation dans ces circonstances doit passer en action, en activité. Quand je conduis ma voiture, quand je fais mes courses, quand je suis avec autrui, quand je suis au travail, quand je suis en train de faire un ménage, quand je suis chez moi avec ma famille, eh bien, on doit avoir encore cette vigilance présente dans l'esprit. Comment est mon esprit? Est-ce que je suis conscient de comment mon esprit réagit par rapport à telle réflexion de l'autre, par rapport à la situation dans ma vie quotidienne, quand je fais mes courses par exemple, eh bien, comment réagit mon esprit par rapport à cela? Et avoir la vigilance de cela, eh bien, c'est ce qu'on appelle la méditation en action. Vous avez un auteur qui parle beaucoup, qui a fait tout un livre sur la méditation en action, c'est Trungpa Rinpoche. Ensuite, le samedi, c'est comme le mardi et le jeudi, c'est esprit d'éveil et pratique de Tonglen. Donc vraiment l'attitude altruiste. Et le dimanche, c'est la réflexion sur l'impermanence et chiner son support. Donc le mercredi et le dimanche, on introduit la méditation sans support. Et vous faites ce programme pendant 3 mois et en avril on le diffère. Normalement, chez Naissance Support, vous avez déjà pu goûter à cela avec, vous savez, quand on prend pour support la résorption des éléments les uns dans les autres. Alors, ça, c'est une méditation. Est-ce qu'elle vous a été agréable, celle-ci ? Du mal pour vous. Et les autres personnes qui se sont entraînées ?
Moi, je trouve qu'elle est très agréable. Oui. Ça coule de l'un à l'autre. Enfin,
et ça passe vite. Voilà. Ça, il y a beaucoup de personnes qui disent au moins les 20 minutes passent vite. Pourquoi ? Parce que on change de support toutes les 3-4 minutes. Donc ça distrait en fait l'esprit tout en gardant concentré sur le support. Donc ça, c'est pas mal. Et pour vous, ça,
j'arrive pas à visualiser la terre. Pourtant, je me suis fait aider. Les petits schémas en couleur, mais j'arrive pas à visualiser la terre.
Mais qu'est-ce que vous appelez visualiser? Parce que visualiser, c'est en fait se reproduire une image mentale, c'est tout.
Oui.
Donc là, même quand vous fermez les yeux, vous représentez un carré jaune, par exemple.
Oui.
Vous n'arrivez pas à le représenter?
J'ai du mal. Si je le regarde, mais 4 minutes.
Mais au bout de 4 minutes, il disparaît ou... comment ça se passe?
Il disparaît bien avant.
Donc. Mais il disparaît parce qu'il est pris par autre chose? Il est remplacé par autre chose?
Oui.
Alors qu'est-ce qu'on appelle? Comment on appelle ça?
La distraction.
Ben oui. Voilà. Voilà. Donc en fait, quand il disparaît, il faut le replacer, le revivifier, lui redonner cette espèce de clarté qui va lui permettre de replacer ce carré jaune. En fait, ça peut être plus difficile, ce genre de support. Pourquoi ? Parce que notre esprit n'est pas habitué à reproduire ce genre de support. Ce sont des symboles et qui, notre esprit jusque-là ne s'est pas amusé à penser ou à projeter une image mentale, un carré jaune, un triangle rouge, etc.
Oui, et puis en plus, le carré, il doit avoir un certain volume, malgré tout.
Bon, ça, c'est juste des... Ça, ce sont des indications. Hein. Ce sont des indications.
Si,
mais voilà, 12 centimètres.
Oui, non, mais pas.
Non, tu ne peux pas rendre la règle et puis mesurer chaque côté, là, c'est impossible.
Non, mais si, moi, je l'ai fait. Au lieu de ça, passer du carré
Fait un carré à dos, donc,
ouais. Qui est blanc, et lui, au feu.
Alors, ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice, ce qui est intéressant dans ce genre de support, c'est que ça habitue notre esprit à changer de support de façon consciente, rapidement. Et ça va aider, ça va donner de la souplesse à l'esprit. Bon, il faut s'habituer petit à petit. Voilà, mais entraînez-vous en tout cas à chiner sans support. Et quand vous êtes dans cette méditation de chiner sans support, que vous commencez à vous sentir à l'aise et que l'esprit reste clair, attention, hein, pas opaque, que l'esprit est clair, portez un regard, si je puis dire, sur cette conscience qui observe, qui reconnaît la présence de tel ou tel phénomène. Et c'est donc la conscience qui s'observe elle-même. Hein. On est d'accord ? Comme disent les textes, la conscience qui se reconnaît elle-même. Quelle qualité vous pourriez attribuer à cette conscience? Essayez d'observer ça. Et de voir comment vous pourriez... quelles sont les qualités que vous pourriez lui attribuer. Et n'allez pas chercher ça dans un bouquin par pitié. Hein, parce que c'est dit dans tel texte. Essayez d'observer. C'est enregistré, je vous préviens. Essayez d'observer vraiment par vous-même et de, s'il y a une qualité que vous percevez un jour à cette conscience, essayez le lendemain de vous dire si cette qualité est toujours là, que vous pouvez la percevoir à nouveau. Voilà. Essayez d'affiner un petit peu, pas seulement d'être conscient des phénomènes, mais cette conscience qui reconnaît les phénomènes, comment est-ce que vous la percevez? Ça,
c'est... Il n'y a pas un danger de saisie aussi quand on veut retrouver une qualité de la conscience?
Oui, simplement observer de façon neutre et dites-vous, voilà, je la vois comme ça. Bon, et eh ben le lendemain, quand vous méditez, est-ce que vous percevez à nouveau cette même qualité? Ne la recherchez pas. Et si elle est là, dites-vous, ah ben tiens, oui, tiens, là, j'expérimente la même chose que j'expérimente ailleurs. Quoi. Et petit à petit, voyez si vous l'expérimentez à chaque fois ou pas.
C'est quelle conscience qui observe la qualité de conscience?
Ça commence à mouliner, là.
Là, c'est déjà trop lourd. D'accord.
Observez. Et vous verrez. Et il n'y a pas... authentifier les textes, authentifier la théorie par votre observation, par votre expérience. Kalman Rinpoche disait, ne vous posez pas de questions, méditez. Quand l'expérience va s'élever, vous n'aurez plus de questions. Et ça, c'est vraiment une approche méditative. Quoi. Et le mental, c'est une plaie, parce que effectivement, quand on mentalise trop, eh bien, dans la méditation, on cherche à ce que la méditation soit conforme à notre compréhension intellectuelle. Et ça, c'est pas bon. Quoi. Parce qu'on essaie de reproduire quelque chose. C'est bon ? Bien, alors, on va aborder un nouveau thème, c'est l'esprit d'éveil. Quand j'ai vu Rinpoche à Porto l'été dernier, hein, il m'a dit, vous faites bien méditer les bases de Shiné et l'esprit d'éveil. Donc on va voir l'esprit d'éveil, c'est un texte qu'on n'a jamais vu, et c'est un texte qui est beaucoup enseigné chez les Gelugpas, et qui s'intitule... 6 causes pour un effet ou 6 causes pour un fruit. Peut-être que vous avez vu ça, je sais pas, dans notre. Mais 6 causes pour un fruit, c'est-à-dire que l'esprit d'éveil, en fait, se compose en 6 étapes. Et il y a 6 étapes pour parfaire cet esprit d'éveil. Et là, c'est ce qu'on appelle donc les 6 causes. Et la première de ces étapes, c'est la méditation sur l'équanimité. L'équanimité. Vivre les choses de façon égale, quelles qu'elles soient. L'équanimité. Alors, vous vous rappelez que l'équanimité, c'est une des 4 qualités qu'on appelle les 4 incommensurables. Il y a l'amour incommensurable, la compassion incommensurable, la joie incommensurable et l'équanimité incommensurable. Et souvent, quand on aborde ces 4 illimités, ou ces 4 incommensurables, on fait dans cet ordre. Amour, joie, compassion... Non, amour, compassion, joie, équanimité. Ces 4 incommensurables, c'est ce que symbolisent les 4 bras de Chenrezig. Bien. Dans ce texte, en fait, l'équanimité, c'est le socle. C'est le fondement. Donc on commence par l'équanimité. Et pourquoi est-ce qu'on commence par l'équanimité? Parce que comment peut-on développer l'amour, la compassion, la bonté, etc., si ces qualités que nous avons tous en nous, elles sont ciblées uniquement pour certains types de personnes. Par exemple, les personnes que l'on aime. C'est déjà beaucoup plus difficile pour les personnes que l'on n'aime pas, enfin, pour qui on n'a pas d'aversion mais pas d'attachement, mais c'est très difficile d'éprouver ces qualités-là pour une personne qui, par exemple, nous a fait beaucoup de tort. Alors, pour que ces qualités d'amour et de compassion se développent, il faut commencer par développer l'équanimité. Et avant de... Alors, ça, c'est la première étape. On reviendra là-dessus. Première étape, donc, méditation sur l'équanimité. Ensuite, la deuxième étape, c'est la méditation sur la bonté. La bonté de tous les êtres. Mais comment on a médité l'équanimité? Eh bien, on va voir la bonté de tous les êtres sans exception. De façon vaste et de façon... équanime. Remarquez, percevoir la bonté chez tous les êtres, ça veut dire en fait dépasser les perceptions premières, les conditionnements que nous avons, qui font que celui-là je trouve sympa, mais celui-là je ne trouve pas sympa du tout, et ça nous est difficile hein, chez ce type de personne de reconnaître sa bonté fondamentale. Or ça, c'est un élément clé du dharma, du bouddhisme. Pour nous, tous les êtres, quels qu'ils soient, ont cette nature de Bouddha, cette nature de totale compassion, de total amour, de totale bonté. C'est plus difficile à percevoir chez certains, je suis d'accord, mais c'est présent. Il y a, si vous visitez par exemple le camp du Struthof, vous savez, en Alsace, il y a un truc intéressant qui, dans la visite guidée, le guide explique que le commandant du camp, après avoir pendu je ne sais combien de personnes, allait juste à côté où il avait sa maison, sa femme et ses enfants, et qu'il adorait ses enfants. C'est-à-dire que même chez un être qui était capable de la pire des atrocités, 10 minutes après, il était capable eh bien, de témoigner de la tendresse, de l'amour envers quelqu'un. Ça veut dire que même si ce n'était pas perceptible sa nature de Bouddha quand il était dans le camp, elle était perceptible ailleurs. C'est-à-dire qu'au-delà de la perception qu'on peut avoir, il y a derrière ça quand même la nature de Bouddha. Ça, c'est un des points fondamentaux du dharma. Évidemment que pour repérer cette bonté fondamentale qu'on appelle bonté fondamentale chez les êtres, il faut la repérer aussi chez soi. Alors ça, vous allez dire les anciens que c'est un peu mon dada, mais si vous voulez vous intéresser au dharma, il va falloir changer votre perception de vous-même. Nu, tu mens à rien, tu as raté, j'ai rien fait de ma vie, les autres me perçoivent comme si, je n'ai que des défauts, etc. Je suis désolé, on ne peut pas pratiquer le dharma comme ça. En ayant cette perception de soi-même. On a des tas de défauts, je suis bien d'accord, mais on aime tous quelqu'un. On aime tous quelqu'un. On a tous de la compassion pour un proche qui souffre. Un de nos proches qui souffre, ça nous est insupportable. On a tous de la bonté pour quelqu'un. Donc cette nature de Bouddha est présente en nous. Alors, on a la tendance en Occident à mettre l'accent toujours sur ce qui ne va pas. Alors les Occidentaux, on est bon. Hein. Quand vous rentrez de l'Inde et que vous êtes dans un hall d'hôpital, par exemple, où j'étais juste en rentrant, et que vous voyez tous les gens qui traversent, sont tous en noir. Marron, c'est la couleur claire déjà. Mais sinon, c'est... Tout le monde est à moitié en deuil, tout le monde est en noir, tout le monde est triste, tout le monde est stressé, tout le monde est... Ça ne va pas quand même. Il y a quelque chose, franchement, qui ne va pas, alors qu'on est dans des conditions matérielles nettement supérieures à la plupart des pays sur la planète. Quand vous allez en Inde, quand je vais dans les villages où je vais, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire à manger à leurs enfants le lendemain. Et vous voyez les saris, c'est flashy, quoi. Il y a de la couleur, il y a de la joie, il y a de... etc. Et nous, on est tristes comme le temps, quoi. Oui, il y en a qui... Hein? Mais... mais cela veut dire quand même que notre esprit a un peu cette... Oui, mais ça veut dire que notre esprit a un peu cette attitude-là. De toujours voir les choses en noir. Regardez comment tout est perçu aujourd'hui dans notre environnement. Rien ne va, ça se casse tout la figure, etc. Il n'y a pas plus pessimiste que les Français ou les Occidentaux.
Non, il n'y a pas plus pessimiste que moi.
Ben, peut-être. Mais en tout cas, au lieu de mettre toujours l'accent sur ça, sur cet aspect-là, il faut un petit peu regarder ce qui va. Et quand on se réveille le matin, on se dit, mais... qu'est-ce que j'ai de positif, qu'est-ce que j'ai de bon en moi, parce que je vais pouvoir développer ces qualités-là autour de moi aujourd'hui. Ça donne une autre perspective quand même à notre journée. Je pense qu'il faut un petit peu travailler de cette façon-là pour prendre conscience, mais que nous avons un potentiel énorme en nous. Le bouddhisme ne recherche pas cet état de sagesse à l'extérieur de l'individu. Il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Il n'y a pas une entité que l'on conçoit comme étant un prototype d'une perfection et d'une sagesse. On ne parle pas de ça dans le bouddhisme parce que dans le bouddhisme, cette sagesse, cette perfection, elle est déjà là. alors il faut la trouver. Il faut la trouver. C'est vraiment important parce que c'est le matériau que l'on va développer par la méditation. C'est le matériau que l'on développe en tant que pratiquant du dharma et en tant que bodhisattva. Et là, on est dans l'esprit d'éveil, c'est-à-dire que découvrir cette bonté fondamentale, mais c'est découvrir l'attitude du bodhisattva. Le bodhisattva, c'est celui qui œuvre pour le bien d'autrui. Ben, vous savez, s'il n'a pas confiance en lui, s'il se considère comme une, comme un moins que rien, qu'est-ce qu'il peut offrir à l'autre? Et ça, on trouve ça chez tous les bodhisattvas, qu'ils aient une étiquette bouddhiste ou pas. Mais tous ceux qui œuvrent pour le bien des êtres, on va dire, mais il y a une puissance, il y a une force chez eux, une grande confiance en eux. Ils peuvent le faire. Comme dirait Rinpoche, don't try to do it, do it. Mais c'est vraiment ça. Donc ça, c'est découvrir, c'est le deuxième élément, découvrir la bonté en soi. Et à partir de là, le troisième élément, c'est comment donner cette bonté à autrui. Ça, c'est le troisième élément. Comment donner cette bonté. Ensuite, quatrième élément, c'est l'amour. Comment développer l'amour. Puis, comment développer la compassion. Et enfin, la sixième étape, c'est ce qu'on appelle l'attitude exceptionnelle. L'attitude exceptionnelle, eh bien, c'est en fait l'attitude de Bodhisattva accompli. C'est l'attitude de Bodhisattva qui est vaste, qui est absolument équanime. Et ce rayonnement d'amour, de compassion, de toutes les qualités qu'on peut percevoir chez un être accompli, eh bien, on perçoit ces qualités-là, mais on les perçoit comme étant rayonnantes, mais alors pour tous les êtres. Et quand on approche un Bodhisattva accompli, tel le Dalai Lama ou n'importe quel Rinpoche, c'est quelque chose qui nous frappe. C'est le rayonnement équanime de ces qualités. Il y a une attitude, un comportement, une façon d'être, une attention à autrui qui est identique pour quelqu'un qu'il connaît depuis 10 ans, pour quelqu'un qu'il connaît et qu'il vient de rencontrer pour la première fois. C'est vaste, c'est équanime, égal pour tous les êtres. Voilà. Et c'est à partir de cette équanimité, eh bien, qu'on peut développer vraiment ces qualités d'amour, de compassion, de bonté et de joie, etc. Alors maintenant, pour l'esprit d'éveil en ces étapes, il y a quand même 3 éléments qui doivent servir de base à notre pratique. Et ça, les anciens, vous les savez. Le premier élément, c'est le renoncement, ce qu'on appelle le renoncement. À quoi renonce-t-on quand on pratique la bodhicitta ou l'esprit d'éveil, quand on pratique le dharma? Ou à quoi renonce un bodhisattva?
Au bien de ce monde.
Il renonce au bien de ce monde.
À la souffrance.
Aux actes non vertueux.
Oui, aux actes non vertueux, à la souffrance. C'est, j'ai un peu l'habitude de dire sous forme de boutade, mais un pratiquant du dharma, c'est quelqu'un qui en a marre d'en avoir marre. Quoi. Il y a c'est quelqu'un qui, à un moment donné, dit non à la souffrance. Quoi.
Ok, message reçu.
Pour la sienne. Pour la sienne et pour autrui. C'est quelqu'un qui va travailler pour mettre un terme à la souffrance dans le monde, mais à sa propre souffrance aussi. Rinpoche dit qu'il ne faut jamais s'oublier. Quand on parle de tous les êtres, eh bien, nous parlons de tous les êtres. Et c'est ça le véritable renoncement. Or, qu'est-ce qui nous fait souffrir? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Pardon? Oui, mais plus précisément.
La saisie.
La saisie, mais en quoi la saisie, elle nous fait souffrir? Saisie ou ignorance, c'est synonyme.
Elle crée des facteurs perturbateurs.
Et oui, c'est la saisie qui crée des facteurs perturbateurs dans notre esprit. Est-ce qu'on en a tous? D'abord, est-ce qu'on a tous la perception de ces facteurs perturbateurs comme étant souffrance? Comme étant dukkha, ce qu'on appelle en sanskrit. La haine, l'aversion. Ça,
la jalousie.
Oui, ça, la jalousie, la haine, l'aversion, c'est clair, c'est pas agréable pour soi, c'est pas agréable pour autrui non plus. Mais ce n'est pas agréable pour soi. On ne peut pas se dire, quand on est dans la haine, on ne peut pas se dire en même temps, qu'est-ce que je suis heureux, quoi. C'est pas. Hein. Bon, la jalousie, c'est pareil. Le désir, l'attachement, c'est déjà plus subtil. Parce qu'on est pétri de ça. Alors, ça, il faut observer. Il faut observer. Il faut observer son esprit. Comment est notre esprit lorsqu'il est soumis à l'attachement? lorsqu'il est soumis au désir, à l'insatisfaction, au non-contentement, etc. Est-ce que ce n'est pas une forme de souffrance qui est peut-être différente de ce que vit notre esprit en termes de souffrance lorsque on est sous l'emprise de la haine, d'accord ? Mais est-ce qu'il n'y a pas une insatisfaction, une frustration, voire plus que ça, dans l'attachement, la crainte, l'anxiété, la peur, etc. Est-ce que ce n'est pas souvent dû à notre attachement ? Est-ce que l'indifférence, ce n'est pas une forme de souffrance ? Et l'orgueil ? Il faut être sûr de ça. Et le renoncement, il vient de cette compréhension-là, il vient de cette observation, de cette expérience-là. On ne renonce pas parce qu'il y a des codes moraux dans le bouddhisme. On ne renonce pas parce qu'on nous dit de renoncer, parce qu'il y a un précepte, tel ou tel précepte, et qui nous dit de renoncer à telle chose, parce que c'est moral. Pas du tout. On renonce parce qu'on comprend les choses. Dalai Lama utilise beaucoup dans ses enseignements le terme de compréhension. Nous devons comprendre ce qui se passe. Et parce que nous comprenons, alors nous pouvons mettre un terme à ça. Nous pouvons décider d'entamer un chemin pour mettre un terme à ce type de fonctionnement. Parce qu'on constate que ce n'est pas juste pour soi, mais ce n'est pas juste non plus pour autrui. Ça nous fait souffrir et ça fait souffrir autrui. Mais ça, il faut le goûter, il faut l'expérimenter. Parce que si on ne considère pas que ce facteur perturbateur est en lui-même souffrance, pourquoi y mettre un terme ? Pourquoi renoncer à ce facteur perturbateur ? Donc le renoncement s'établit sur l'esprit d'éveil, sur cette motivation. Et puis le deuxième élément, alors ça c'est, je reviens là sur le renoncement, il y a trop de personnes qui pensent que renoncer, ça consiste à renoncer à tous les plaisirs du monde, par exemple. Mais non. Si vous aimez aller au ciné, mais allez au ciné. Il y a une moniale qui vivait avec moi à Strasbourg, qui est décédée maintenant. Elle a eu des réflexions un jour parce qu'elle avait dit que de temps en temps, elle regardait la télé. Et qu'elle aimait regarder la télé. Mais elle en a pleuré, quoi. Elle était venue avec moi après voir Rinpoche parce que des personnes l'avaient dit, mais comment une nonne, ça peut encore regarder la télé? Parce que vous savez, il y a des gens qui ont des projections. Hein. Et oui.
Moi, quand je suis devenue bouddhiste, on va dire les bouddhistes, ils sont pauvres. Ils vivent comme des ermites, vous voyez, la notion.
Oui, on a des images.
Alors, on m'a dit, tu dois laisser ta maison, tu dois tout laisser. Pas tu dois vivre sur une cagette, ouais,
on a des idées comme ça, des images.
Ils ont des images stéréotypées.
Alors, Rinpoche avait dit à cette manière, il peut dire, mais non, si vous avez un plaisir à regarder la télé, regardez la télé. Est-ce qu'il y a de l'attachement à cela? C'est là le point important. C'est-à-dire que si elle ne peut pas ne pas regarder la télé, si elle est accro à la télé, comme moi par exemple j'ai tendance à l'être, eh bien là il y a un problème parce qu'il y a de l'attachement, il y a une dépendance. Voilà. Mais il y a une différence entre plaisir et désir, entre plaisir et attachement. Ça, il faut vraiment faire cette différence. Le plaisir n'est pas du tout condamné dans le bouddhisme. Bon. Ensuite, le deuxième élément, le deuxième pilier pour l'esprit d'éveil, c'est la bodhicitta relative. La bodhicitta relative, c'est avoir développé une attitude pour le bien d'autrui. Et cette attitude, elle a deux aspects. Elle a ce qu'on appelle l'aspiration et puis la mise en application. L'aspiration, c'est donner une force à notre esprit que... Alors, on peut se donner, vous savez, la force de l'impulsion qu'on trouve dans l'entraînement de l'esprit en 7 points. C'est à partir de maintenant jusqu'à l'éveil, mais plus particulièrement jusqu'à la fin de cette journée. Je ne me séparerai pas des deux aspects de la précieuse bodhicitta, du précieux esprit d'éveil. Ça, c'est la force de l'aspiration. C'est-à-dire que ça va donner une force à notre esprit, une direction à notre esprit. Tous les matins, il faut donner cette force à notre esprit. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je veux garder cette motivation présente dans mon esprit. Mais cette force de l'aspiration, elle n'est pas suffisante. Elle doit passer dans la mise en application. Et c'est là où, chez les bouddhistes, de façon générale, c'est maigre. On fait beaucoup de souhaits. On fait beaucoup de souhaits. Les moines font beaucoup de souhaits. Ça, c'est la force de l'aspiration. Faire des souhaits pour celui qui souffre à 10 000 km, ça ne nous engage pas concrètement, fondamentalement. Mais Kampo Rinpoche, elle le disait dernièrement dans un enseignement, elle disait, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour qu'il y ait un peu moins de souffrance autour de vous, et un peu plus de bonheur? Et ça, ce n'est pas à 10 000 km que ça se passe. C'est dans notre environnement proche, peut-être dans notre famille, peut-être dans notre cadre professionnel, social, dans la situation que l'on rencontre, dans notre quotidien. Aujourd'hui, il faudrait que le soir, on puisse se dire ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour qu'il y ait un peu plus de bonheur et un peu moins de souffrance? Si on ne trouve rien à cette réponse, eh bien, il va falloir se bouger de demain. Et ça, c'est l'attitude du bodhisattva. Le bodhisattva, il ne fait pas seulement des souhaits. Il accomplit des gestes. Il fait quelque chose, concrètement. Si vous achetez là le numéro de Regard Bouddhiste, c'est la revue, vous savez, qui a remplacé Bouddhisme Actualité, il y a Mathieu Ricard en photo dessus, et il y a en sous-titre La compassion de point. Et si on s'y mettait?
Point d'interrogation.
Ben oui, mais c'est une question qu'on doit avoir en tant que pratiquant du Dharma. Et alors, en plus forte raison, dans le grand véhicule, quoi. Le Dalai Lama le rappelle des fois. Il dit, les bouddhistes, on a à apprendre ça des chrétiens. Parce qu'il y a eu une action pour soulager quand même la souffrance autour de soi. Et il y a un mouvement qui naît là, actuellement en Occident au niveau du Dharma, c'est ce qu'on appelle le bouddhisme engagé. Mais ça fait partie de l'attitude du bodhisattva, ça. Pas simplement à réciter des prières pour les êtres qui souffrent, quoi. Qu'est-ce que je fais concrètement? Et il n'y a bien sûr pas de miracle à faire. Mais chacun dans notre milieu social, environnemental, etc. Mais dans la journée, il y a au moins une fois où on peut agir pour qu'il y ait un petit peu moins de souffrance pour cette personne avec qui je suis en contact. Ne serait-ce que le regard, ne serait-ce que par une écoute, ou par quelque chose, un geste de façon concrète. Mais ça c'est la bodhicitta relative, ce qu'on appelle la bodhicitta relative, mais en application. Et souvenez-vous que tous les textes disent que pour la bodhicitta ultime, c'est-à-dire la sagesse, réaliser la vacuité, la sagesse, la nature de l'esprit, eh bien, cette bodhicitta ultime, pour produire le fruit, elle doit s'appuyer sur la bodhicitta relative. Le concret, l'amour, la compassion. Et plus nous œuvrerons dans la bodhicitta relative, plus la bodhicitta ultime, eh bien, va être facile à expérimenter. Les occidentaux, on met beaucoup d'importance sur la bodhicitta ultime. Les Zen, par exemple, mettent beaucoup d'importance, je suis désolé, mais ils mettent beaucoup d'importance sur la bodhicitta ultime. Et dans les réunions, vous savez, la CBA, la communauté bouddhiste d'Alsace, qui organise depuis 9 ans maintenant la fête du Bouddha à Strasbourg, on s'accroche des fois sur ça. Les Zen sont très bodhicitta ultime. Réalisant la bodhicitta ultime, la vérité et la compassion, ça viendra tout seul après. D'accord. C'est une façon de voir. Et c'est pas faux. Ce n'est pas faux. Nous, on dit plutôt pratiquons la bodhicitta relative, parce que la bodhicitta relative, ça rappe l'ego. À chaque fois qu'on va faire quelque chose pour autrui, ça va demander peut-être quelque chose de nous-mêmes. Et la saisie égotique, petit à petit, elle va s'effriter, elle va diminuer. Et qu'est-ce qu'il y a de saisie égotique? C'est ce qu'on appelle la bodhicitta ultime. Donc elle se développe par le développement de la bodhicitta relative. Voilà. Quand il y a ces trois éléments, ces trois piliers, renoncement, bodhicitta relative et bodhicitta ultime, eh bien, l'esprit d'éveil, c'est quelque chose qui s'applique, le texte dit, mais sans obstacle. Sans obstacle. Alors il faut revenir de temps en temps à ces trois piliers. Où en suis-je avec le renoncement par rapport aux actes négatifs, par rapport à mes facteurs perturbateurs, etc. Et pour développer cette équanimité, eh bien, c'est une méditation que l'on peut faire qui ressemble un peu à ton blême. C'est-à-dire on commence par visualiser une personne pour qui on n'a pas de sentiment d'attachement, mais pour qui on n'a pas de sentiment non plus d'aversion. Une personne neutre. Mais une personne que l'on connaît. Le texte dit, il faut visualiser une personne que l'on connaît. C'est-à-dire la boulangère du coin, si vous voulez. Et on la visualise, on pense à elle, on se dit, bon, je n'ai pas d'attachement, d'accord, je n'ai pas d'aversion non plus, mais ce qu'elle vit, elle, est-ce qu'elle est différente de moi? Qu'est-ce que je veux? Je cherche à être heureux, je cherche à me préserver de toute forme de souffrance. Mais c'est pareil pour elle, c'est pareil pour cette personne. Elle est dans cette même attitude, elle est dans ce même objectif de vie, puisque notre objectif de vie, en fait, pour tous les êtres, c'est ça. Et ça, cette façon de comprendre ce qu'elle peut vivre, de comprendre sa quête, parce qu'elle a cette quête, tous les êtres ont cette quête du bonheur. Cette façon de comprendre cette quête, ça va nous permettre de dépasser notre perception première qu'on a de cette personne. C'est-à-dire que l'indifférence qu'on peut avoir pour elle, parce qu'on la connaît, mais on a une certaine indifférence, cette indifférence, elle va faire place à une compréhension qui va déboucher sur une motivation qui va devenir aussi forte que la motivation qu'on a pour soi-même. Elle nous sera de moins en moins indifférente. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, qui est dans la rue, on a une certaine indifférence. On peut être touché, évidemment. Il y a des personnes qui ne nous touchent pas vraiment, pour qui on n'a pas d'aversion non plus, mais on a une certaine indifférence. Comment passe-t-on à côté de cette personne? Et vous me direz peut-être qu'on ne peut pas faire quelque chose de façon concrète pour cette personne. Mais là, ce qui est important, c'est de voir comment est notre esprit par rapport à la perception de cette personne que je vois là sur le bord de la route. Pourquoi suis-je indifférent? Alors que cette personne-là, elle a la même quête que moi, et si moi j'étais dans cette situation-là, mais elle souffrirait autant que moi, je souffrirais autant qu'elle. Comment est-ce que je vivrais cette situation? Il n'y a pas de différence entre elle et moi. Pour un bodhisattva, c'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'il n'y a pas de différence entre les êtres et moi. Nous sommes tous dans cette même quête du bonheur et nous souffrons tous à tour de rôle. Il n'y a pas des êtres qui ne souffrent pas et d'autres qui passent leur temps à souffrir. Si aujourd'hui on ne souffre pas, demain peut-être qu'on va souffrir. Mais c'est sûr qu'un jour on souffrira. Il y a cette impermanence, cette instabilité des situations. La santé ne sera pas toujours là, la mort arrivera de toute façon pour un de nos proches, pour nous, etc. Et à tour de rôle, quelle est la différence entre les êtres et moi? Mais aucune. À tour de rôle, nous vivons tous la même chose. Donc à partir de ce type de méditation, eh bien ce que je peux comprendre pour moi-même, ça peut déjà s'étendre à ce type de personnes. Ensuite, il faut visualiser une personne pour qui nous avons plutôt de l'attachement. Ici, parlons d'un sentiment d'amour plutôt que d'attachement. Parlons d'un sentiment d'amour. Cette personne que j'aime aujourd'hui, est-ce que je peux considérer que je l'ai toujours aimée ou que cet amour ne peut pas se transformer peut-être un jour en autre chose? Est-ce que les personnes qu'on a aimées il y a 20 ans, on les aime toujours autant? Pas dans tous les cas. Hein. Ça s'est transformé.
On transforme l'amour.
C'est du vécu.
Mais quelquefois, on peut transformer l'amour en haine.
On transforme l'amour en haine, on transforme l'amour en tendresse, on transforme l'amour en plein de choses. Donc c'est une autre façon de voir aussi.
Oui, mais l'amour peut se transformer en haine.
Tout à fait.
L'amour peut se transformer en indifférence.
Oui.
Mais il n'y a pas de jugement là-dedans. Il y a juste à constater que cette personne que j'aime aujourd'hui, je ne l'ai peut-être pas toujours aimée, et je ne l'aimerai peut-être pas toujours. C'est-à-dire que ça se modifie. C'est impermanent, ça aussi. Les Tibétains, eux, ils parlent des vies antérieures en disant cette personne, peut-être qu'elle a été ma pire ennemie dans une vie passée. Et aujourd'hui, j'ai de l'attachement. Donc ça permet de relativiser. Nous, les vies passées, oui, on admet, parce que c'est dit comme ça dans le bouddhisme, mais on n'a pas été vraiment, comment dire, c'est peut-être moins évident que pour un Asiatique ou pour un Tibétain. Mais on peut simplement, en observant dans notre vie quotidienne, voir que ce sentiment d'amour, En fait, il est apparu un jour et on n'aimait pas cette personne, même si on la connaissait peut-être avant, et puis que ça peut se transformer, et ça peut se transformer en autre chose. Donc ça permet de relativiser aussi cet attachement ou cet amour. Et après, on médite par rapport à une personne qui, aujourd'hui, eh bien, on la considère comme une ennemie, c'est-à-dire quelqu'un qui nous a fait du tort, du mal, ou qui, pour qui nous avons eh bien, de l'aversion, voire de la haine. Est-ce que cette personne, on a toujours eu de la haine pour elle? Quelquefois, les ennemis peuvent se transformer et redevenir des amis. Ou en tout cas, ne plus avoir de haine vis-à-vis de cette personne et avoir une attitude plutôt neutre, on va dire. Ça se modifie tout ça. Ça se modifie. Pourquoi entretenir cette haine dans une relation? Cette haine, elle s'élève à partir de tout un ensemble d'éléments qui font que, eh bien, il y a de la haine. Mais est-ce que ma perception de cette personne qui fait que je la déteste, je peux dire que cette perception est juste? Est-ce que cette perception définit la nature même de cette personne? Non. Et il faut s'amuser à cela pour voir que les perceptions que l'on a sont liées à nos conditionnements. Je dis souvent, quand on est dans un transport en public, observez la personne qui s'installe devant vous dans le bus, par exemple, et comment vous la percevez. Immédiatement, comment vous la percevez? Sans porter de jugement sur votre perception. Mais de façon objective, voyez comment vous percevez cette personne. Elle est moche, elle est comme ça. D'accord. Ben, prenez conscience que vous la percevez comme ça. Imaginez cette personne agir de façon différente. Peut-être qu'elle fait la gueule aujourd'hui parce qu'elle n'était pas heureuse, bon, etc. Alors elle fait une tête comme ça et par sa tête, vous la percevez comme ça. Imaginez cette personne en train de, je sais pas, témoigner de la tendresse envers son enfant, en train de dire quelque chose d'agréable envers quelqu'un, etc. Notre perception se modifie immédiatement. Elle a un sourire, notre perception qu'on avait s'efface, et on a une autre perception qui la remplace immédiatement. Quelle est la vraie de cette perception? Ni l'une ni l'autre. Ces perceptions, elles sont liées au conditionnement de notre esprit. Et c'est très important, ça, de voir que ce n'est que relatif. On ne peut pas dire que ça définit ce qu'est la personne. Parce que cette personne, même si cette personne m'a fait du mal et que je lui voue une haine féroce aujourd'hui, son conjoint la voit quand même peut-être autrement. Donc qui a raison? C'est moi, ma perception d'elle. Et ça, l'équanimité, ça permet d'aller au-delà de cette perception première, de développer une compréhension que, au-delà de ça, cette personne ne correspond pas à l'image que je me donne d'elle. Et ça me permet d'entrer en contact avec sa nature de Bouddha. Même ce commandant du camp, il était capable d'avoir de la tendresse pour avoir son enfant, avec son enfant. Pas prendre cet exemple tout de suite, hein, pour travailler sur notre équanimité, mais je veux dire que même dans les cas extrêmes, eh bien, c'est important de dépasser notre perception première, laquelle perception elle est liée eh ben, à tout ce que l'on vit, à tout un ensemble de causes et de conditions qui font qu'on a cette perception. Et il ne faut pas juger notre perception, il ne faut pas se dire je suis nul parce que je suis négatif, par exemple, parce que j'ai cette perception de cette personne. Il faut voir qu'elle est dépendante, cette perception, mais qu'elle ne correspond pas à la réalité ultime de ce qu'est cette personne. Ça demande une gymnastique de l'esprit. Ça demande un entraînement de l'esprit. Donc ça demande effectivement à méditer, quoi, à s'entraîner. Quand on développe cette équanimité, alors quand on s'attache ensuite à développer la bonté, l'amour, la compassion, etc., l'application de ces qualités, c'est nettement tout de suite plus équanime. Parce qu'on a travaillé sur l'équanimité en premier. Sans travailler sur cette équanimité en premier, on développe de l'amour, ça c'est clair, mais c'est en général toujours pour les personnes eh bien, pour qui nous sommes attachés. et il y a du mal à développer, à dépasser ces limites-là, alors qu'on a en soi cette puissance d'amour, de compassion et de bonté fondamentale. On a cette puissance-là. Ce rayonnement que l'on peut sentir chez des êtres accomplis, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont acquis de l'extérieur. C'est quelque chose qu'ils ont développé de leur potentiel. Et nous avons ce même potentiel. Il n'y a pas de différence entre le Dalai Lama ou le Bouddha et nous. Le Dalai Lama, il a fini le chemin. Nous, nous sommes dans le chemin. C'est ça la seule différence. Donc voilà, essayez de travailler sur cette équanimité. Et puis après, eh bien, on passera aux autres étapes après. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Chacun va à son rythme. Chacun va à son rythme. Ça, c'est important. Bon, alors, quelques mots sur... Pendant que vous réfléchissez s'il y a d'autres questions après. Quelques mots sur l'Inde. D'abord, merci à tous qui avez fait des... Je sais que vous avez tous fait des souhaits, des pratiques pour mon frère. Le cas de santé, c'est... Après un mois et demi d'hôpital, c'est toujours stationnaire, c'est-à-dire que le foyer infectieux au niveau du cerveau est toujours là. Donc ça a provoqué méningite, embolie pulmonaire, pneumonie, calcul au niveau des reins, diabète, enfin plein de hypotension. Il a été opéré d'un rein parce que le calcul a perforé l'artère, enfin, plein de complications comme ça. Il n'a aucune séquelle neurologique que de son coma. Donc ça, c'est plutôt positif, il se souvient de tout. Mais par contre, voilà, cette absence ne se résorbe pas. Et les IRM montrent qu'il est toujours là. Et il parle d'opération, mais c'est délicat, c'est très mal placé. Il est trop faible pour le moment, il ne peut pas manger, il ne peut pas se lever. Bon, c'est trop faible pour ce genre d'intervention. Alors, les médecins nous disent, mais quelquefois, il faut 6 mois d'antibiotiques pour que ça commence à se résorber. C'est donc, voilà, quelque chose de très long. Il n'en va plus déterminer le germe. La ponction lombaire, la culture n'a rien donné. Ensuite, panoplie d'antibiotiques fait que maintenant, c'est trop tard pour déterminer quoi que ce soit. Voilà. C'est arrivé, mais vraiment comme ça, hein, du jour au lendemain. La veille au soir, ma mère a remarqué qu'il avait la tête un peu comme ça. Donc, il devait y avoir déjà une raideur au niveau de la nuque, mais il ne s'est jamais plaint. Quoi. Et à 10h du matin, il est tombé dans le coma. Voilà. Donc, je suis rentré plutôt que prévu de l'Inde. Et je suis resté quand même 3 semaines en Inde au lieu d'un mois. Et au niveau de l'école en Inde, eh bien, c'est bien parce que... Vous savez qu'il y a 2 bâtiments de classe. Il y a un bâtiment où il y a 12 classes sur 3 niveaux. Et le deuxième bâtiment, il y a un seul niveau avec 4 classes. Et là, ça y est, on construit le deuxième niveau de 4 classes supplémentaires. Rajesh est directeur de l'école. Il veut qu'il y ait une bibliothèque dans l'école. Le service médical, il y a jusqu'à des fois 50 personnes par jour. C'est tout gratuit. Donc les gens viennent vraiment pour se faire soigner, c'est très bien. Et pour l'atelier de couture où les femmes ont un diplôme de couture, il y a un an d'attente, tellement il y a des femmes de tous les villages qui s'inscrivent. Donc voilà, ça marche bien. Le matin, j'étais à l'école dès 7h le matin. L'après-midi, j'allais méditer et le soir, je pouponnais. Si vous m'aviez vu, j'ai failli la ramener. Parce que Rajesh, il a 2 fils, mais il a adopté une petite fille indienne qui avait 5 mois. Mais alors, j'ai craqué, quoi. J'ai dit à Sangeeta, la femme de Rajesh, mais je vais la ramener. Ah, je l'aurais adoptée. Craquante, quoi. Vraiment mignonne. C'est vraiment un vrai baigneur. Et puis, par contre, alors, Bodh Gaya, ceux qui connaissent Bodh Gaya, vous êtes allé, vous, à Bodh Gaya?
Non.
Corinne, oui. Bodh Gaya, il n'y a pas une très bonne ambiance pour le moment, je trouve. Vous savez que Bodh Gaya, alors Bodh Gaya en Inde, c'est le lieu où le Bouddha a réalisé l'éveil. Donc il y a un immense stupa qui a été construit par l'empereur Ashoka. Et ce lieu a été classé il y a quelques années par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Et l'UNESCO a demandé à ce qu'il y ait un grand jardin tout autour de silence. Parce que pour le moment, il y a la ville indienne tout autour, ça grouille. Ce qui veut dire, ce qui implique que petit à petit, on démolisse la ville indienne. Donc, les Indiens, évidemment, pendant des années, ont manifesté, ne sont pas contents. Ensuite, ils ne reçoivent pas de dédommagement. Voilà. Et puis, vous savez qu'en juin dernier, quand Rajesh était là, il y a eu un attentat au cœur même du stupa où il y a deux moines qui sont morts. Et donc, le gouvernement du Bihar a pris prétexte de cet attentat et bien pour commencer la démolition. Alors, ils ont commencé la démolition. Quand on sort du stupa, vous savez, il y avait des cahutes qui vendaient des tas de trucs. Ça, c'est rasé. Ça, c'est tout rasé. Mais ils ont construit un immense mur autour, de 5 mètres de haut. Ouais. Avec deux portes. Et alors, vous êtes filtré aux portes. Alors, vous passez le mur, vous entrez dans l'enceinte. Il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus un étal. Plus rien. Tout est calme. Et puis, les Indiens sont tout autour, quoi, de ce mur. Il y a une espèce d'enceinte, mais qui sépare complètement les deux communautés. Alors, il paraît que ce mur sera démoli plus tard quand le jardin sera fait. Mais je pense que ça va durer des années, quoi. Et puis, il commence à faire payer l'entrée au stupa. On est fouillé deux fois pour entrer au stupa. Donc, il y a une sale ambiance, moi, je trouve, que, par rapport à ce qu'on a connu. Bon. Et puis, alors, un autre fait qui était là, c'est que des Thaïlandais ont acheté 300 kilos d'or massif pour dorer la flèche du stupa. 11 millions d'euros.
Ouf.
Alors que ça meurt de faim dans le village à 7 km de là. Alors je sais bien que les temples hindous sont très riches, mais là, les Indiens, les hindous, ça ne passait pas. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre de l'or là, sur ce stupa? Et alors, dans les journaux, il y avait des articles. À la télé, il y avait des interviews de moines thaïlandais qui disaient « Ah, mais c'est très bien, c'est beaucoup de dévotion, il faudrait que tous les bouddhistes continuent à adorer tout le stupa, etc. » Et la communauté indienne...
La dévotion, c'est bien, mais ça nourrit pas son âme, excusez-moi. Voilà.
Donc voilà, là, il y avait un peu de tension au niveau des deux communautés à Bodh Gaya. Depuis 85 que j'y vais, j'avais jamais vu des tensions comme ça. C'est un peu dommage.
Même dans cette région, les bouddhistes ne sont pas majoritaires.
Du tout. Du tout. Le bouddhisme représente 3%, mais pas. Il n'y a pas plus de bouddhistes que de chrétiens en Inde. Donc ça se développe un peu pour le moment, parce qu'il y a par les réfugiés tibétains et par le Sri Lanka, mais il y a très peu de bouddhistes. Enfin voilà, je trouve que c'était un peu dommage. Mais sinon, il faisait 30 degrés tous les jours. Ça, c'était très bien.
Pas de neige.
Pas de neige du tout, non. Voilà pour l'Inde. Autre chose?
Le Karmapa est l'enfant.
Mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu parce qu'il est enfermé au Tiergarh Monastery. Les menames se font au Tiergarh Monastery. Depuis quelques années, ils ne se font plus du tout au stupa. Parce qu'il y a tellement de moines que... Quand ça se faisait au stupa, les autres communautés ne pouvaient plus pratiquer autour du stupa. Pratiquement. Et puis, je sais que Rinpoche Rinpoche s'est cassé le bras. Donc, pendant sa retraite, Lakshobhya, il avait le bras dans le plâtre. Bon, il m'a téléphoné pour prendre des nouvelles de mon frère. Et il m'a dit, non, mais ça y est, je suis déplâtré, maintenant ça va. J'ai vu des photos du Lam avec Rinpoche. Alors, en parlant de Rinpoche, ça c'est officiel. Il a répondu OK pour les dates qu'on lui a demandées. Donc, il vient à Luce le dernier week-end de mai. C'est-à-dire, c'est le week-end de l'Ascension. Et donc, il enseignera le jeudi, puisque c'est le jeudi de l'Ascension, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et il restera toute la semaine. Parce que le week-end d'après, c'est la fête du Bouddha à Strasbourg. Et cette année, on l'a invité pour faire une conférence. Il a accepté, donc il ne va pas repartir pendant une semaine. Bon, à mon avis, il fera quand même des petits virements. C'est-à-dire, il ira sans doute enseigner comme à chaque fois à Offenbourg. Quand il est à Luce, il va à Offenbourg. Il se prendra peut-être un avion pour Munich, ou pour une semaine à Munich, ou des trucs comme ça. Parce que, il veut des fois rester une semaine, puis en fait, les gens de l'environnement le sollicitent, et là, il dit oui, quoi. Voilà. Mais en tout cas, alors inutile de téléphoner à Luce en disant je réserve pour les 4 jours de Rinpoche, on ne prendra pas votre réservation pour le moment. Il faut attendre de recevoir le bulletin de. Oui, le courrier. Voilà, mais déjà vous pouvez obtenir ces dates-là si vous souhaitez venir.
C'est le dernier week-end de mai, c'est le 31 et.
Non, c'est
celui d'avant.
Eh ben si, c'est le. Non, c'est. Regardez le jeudi, l'Ascension, ça doit être le 28, je crois. C'est un jeudi, non?
Jeudi 29.
C'est jeudi 29?
Et mardi 28.
Comment?
C'est pas possible. Le
28 et jeudi 29.
Si le jeudi, c'est un
peu. C'est pas possible,
c'est
le 29.
C'est le 29, voilà. Le jeudi, c'est le 29. Oui. Donc c'est 29, 30, 31 et 1er.
Et 32.
Et 33.
C'est une première.
Les 4 jours là, l'enseignement.
Oui.
Le jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Oui, parce que comme le jeudi, c'est férié, beaucoup de personnes sont le pont, en fait.
Et mercredi.
Ah bah non. Il arrivera sans doute le jeudi de je ne sais pas où. Mais voilà.
Dans le nouveau programme qu'on a reçu, j'ai vu qu'il y avait un week-end de préparation à la mort.
Ouais.
Donc il va consister en quoi ce week-end?
On sort qu'on va s'entraîner.
Oui.
Mais ça vous fait rire. Le samedi, on verra tout le processus de la mort tel que les voilà. Le voir, c'est-à-dire la résorption des éléments, les barreaux et tout ça. Et puis le dimanche, on fera. Alors, on verra aussi pourquoi Amitabha. Pourquoi Powa, ces pratiques-là qui sont liées à la mort, à la nôtre ou celle d'un proche. Et le dimanche, on verra plutôt comment se préparer à la mort.
Voilà. Et puis, il y a un autre week-end qui est marqué aussi, la pure pratique de la pleine conscience avec la sangha du colibri.
Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est la sangha, déjà l'année dernière, ils sont venus. C'est la sangha de Thich Nhat Hanh qui est à Strasbourg. D'accord. Et ils louent en fait le centre. Ce week-end-là pour venir pratiquer. Parce qu'à Strasbourg, ils n'ont pas de lieu.
D'accord.
Alors, ils font venir un mois. Oui, c'est pour eux.
C'est, le week-end est fermé à nous.
Oui, parce qu'en général, ils utilisent toutes les chambres, la cuisine, ils ont leurs horaires, leur organisation interne. Quoi. Et l'année dernière, ils étaient venus. J'étais déjà, je crois, en déplacement. Cette année, je suis à Berlin quand ils viennent. Je ne sais pas encore. Mais, c'est la. Alors, ils font venir, je crois, du village du Prunier, un moine ou une moniale. Et puis, comme ils n'ont pas de lieu à Strasbourg, eh bien, ils demandent, ils louent, en fait, les locaux de Luce.
Donc, je me demandais si c'était quelque chose pour nous, ou je ne savais pas ce que c'était. Non. Ouais.
Voilà, c'est tout. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans exclusion d'un seul, établir en cet état tout être.